Dans cet épisode, Véro nous démontre que vivre plusieurs vies en une est possible. Gardienne d'enfants, et puis de chèvres, d'ânes, de savoirs, de refuges, et aujourd'hui de fromage, cette hôtesse hors pair remplit sa vie de valeurs fortes et de doux combats. La nature, sa ressource principale, lui a donné l'élan nécessaire à la quitter, mais jamais bien longtemps. Cette connexion forte, Véro la nourrit et la transmet au travers de son métier, au plus proche des paysans et des gens de la terre. Notre terre si riche, si vivante, dont un petit bout se goûte et se sent dans chaque fromage dont Véro est la passeuse. Passeuse de savoir, d'histoire, de valeur et de goût. Véro m'a raconté son enfance. La petite Véro jouant la sauveuse de lions en Afrique. Ou encore sa vie avec ses grands-mères matriarches, d'une infinie patience avec elle. Son Jura, sa nature. De son alimentation et de ses joues bien remplies. De sa première expérience gastronomique chez Berlin et de ce qui l'a conduite ici, à Bruxelles, à ouvrir la fruitière avec son fils Léo. Je vous souhaite de recevoir les mots de Véro, comme elle vous nourrirait de ses histoires. Bonne écoute. Bonjour Véro.
Bonjour Fred.
Merci d'être avec moi ce matin. Je t'ai invitée pour te parler de ton parcours, de tes ingrédients de vie indispensables, et je voulais d'abord te parler de ton enfance. Est-ce que tu avais un rêve d'enfant? Et quelle petite fille étais-tu?
Alors, je vais peut-être te parler de choses que tu ne connais pas, parce que nous ne sommes pas nés à la même époque. je ne sais pas si j'avais un rêve d'enfant. J'étais une petite fille très garçon manqué, parce que mon papa souhaitait un... J'étais la première de la fratrie et mon papa souhaitait vraiment un garçon. Et je crois que j'ai inconsciemment répondu un peu à son souhait en jouant ce rôle de garçon manqué, un petit peu casse-cou, touche-à-tout, un petit peu en tous les sens, quoi. Mm-hmm. Et peut-être un rêve d'enfant. Il y avait un feuilleton qui passait à la télé qui s'appelait Dactari. C'était l'histoire de quelques personnes qui étaient parties en Afrique sauver des animaux. Et ce truc me touchait, je ne sais pas pourquoi, parce qu'ils soignaient des lions. Enfin, c'était vraiment pas proche de tout ce que je vivais au quotidien. Mmh. Et pendant des années, j'ai joué à Dactari avec mes amis. Et donc, il y avait quelqu'un qui était vétérinaire, quelqu'un qui chassait le lion. Enfin, voilà. Donc, est-ce que j'avais déjà quelque chose de l'ordre de la nature, l'attrait pour les animaux? J'en sais rien. En tout cas, je ne sais pas si c'était un rêve. Je pense pas que j'avais envie de devenir ça, mais à ce moment-là, j'étais ça dans mes rêves, quoi. J'ai vécu à la campagne hein, tout le temps, donc je suis née à Mortaux, pays de la saucisse, dans une famille un peu. J'ai grandi dans une famille un peu élargie puisque mes cousins, mes oncles et tantes, mes grands-parents, tout le monde habitait un peu dans le même secteur. Donc c'était assez. Enfin, j'ai un souvenir très joyeux de mon enfance avec, des grands jeux dans les jardins, monter dans les arbres, les grands-mères qui font des desserts, des goûters incroyables, le grand-père qui nous emmène skier. Enfin, voilà, c'était vraiment. J'ai pas beaucoup de mauvais souvenirs de mon enfance. J'ai été beaucoup élevée par ma grand-mère maternelle qui me gardait, où je rentrais souvent après l'école, même quand j'étais encore au collège. Et je pense que ça m'a beaucoup, c'est ça qui a beaucoup forgé ma personnalité, parce que c'était une famille un petit peu matriarcale, où les femmes étaient fortes de caractère et décidaient beaucoup. Donc je crois que je suis vraiment dans cette trempe-là de familiale, de femmes fortes, enfin de femmes pas fortes au sens elles avaient des faiblesses, elles étaient mes deux grand-mères ont été, en tout cas une a été très malade pendant longtemps, mais c'était vraiment des caractères et elles décidaient beaucoup de choses et quand elles avaient décidé, c'était un peu parole de grand-mère, on faisait tout comme ça. Pour le sujet qui nous relie un peu toutes les deux, l'alimentation, j'ai envie d'en parler maintenant, parce que j'étais une enfant avec pas mal de problèmes alimentaires, c'est-à-dire que je ne mangeais pas beaucoup, j'étais très maigre, À l'époque, c'était une catastrophe d'être maigre. Enfin, je pense que maintenant aussi, un enfant qui grossit pas. Enfin, voilà. Donc, mais ma maman n'était pas très patiente avec ça. Ce que j'en retiens, c'est que j'ai une aversion incroyable pour la cervelle, parce que toutes les semaines, une fois par semaine, je devais manger de la cervelle d'agneau. Et j'ai un souvenir terrible de ça.
Et pourquoi ?
Parce que le médecin avait dit que fallait manger de la cervelle. Je ne sais pas pourquoi. Ça devait être un premier miracle. depuis, il y a eu la vache folle. On ne mange plus du tout. Mais voilà. Par contre, ma grand-mère avait beaucoup de patience avec moi. Et donc, elle arrivait à me faire manger beaucoup de choses. Mais j'ai des souvenirs de viande conservée dans les joues pendant des heures. Où j'osais même pas cracher parce que j'étais sûre que quelqu'un allait me voir. Enfin, voilà. C'est le... Il y a des choses comme ça qui ont été assez difficiles au niveau de mon enfance. Après, j'ai plus trop de souvenirs parce que quand on a quitté, donc j'ai quitté Morteau. J'avais une douzaine d'années. Mon papa travaillait dans la banque, donc il a été muté et on s'est retrouvé en clan, juste mes parents, ma sœur et moi. Et ça a été plus compliqué. C'était plus la même vie. En plus, on vivait dans des villes. Et j'ai pas trop de souvenirs de cette époque-là. Après, au niveau de l'alimentation, c'est vraiment quand j'ai quitté ma famille pour aller étudier à Strasbourg où j'ai découvert une autre forme de manger, entre guillemets. Le restaurant universitaire, le petit boucher qui habitait juste, dont le magasin était juste là où j'habitais, juste en dessous, donc qui tous les jours me donnait la petite saucisse de Strasbourg. Enfin voilà, là je crois que c'est là que j'ai découvert autre chose, avec la chance d'avoir une tante qui, pour mes 18 ans, m'a emmenée pour la première fois dans un restaurant étoilé chez Berlin. Et là, ça a été une vraie révélation sur... On pouvait manger des trucs qu'on n'aimait pas, mais qui étaient très bons, la façon dont c'était cuisiné, et surtout toute cette importance qu'on donnait aux repas, aux aliments, enfin voilà, et aux matières premières.
Comme décorum aussi.
Oui, les gens qui étaient là, parce que Berlin c'était servi à l'assiette, sous cloche, on était quatre, il y avait quatre personnes qui soulevaient leur cloche en même temps, enfin voilà, ça m'a marqué. Mais ce qui m'a marqué, je crois que c'est plus le rapport au produit. Vraiment, on te parle d'un produit. Mmh. C'est pas juste un truc qu'on va acheter et qu'on met dans une assiette et qu'on a cuit comme la voisine le fait.
C'est un son particulier de l'aliment. Oh, c'est beau.
Oui, ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué en tant que fille. Puis ensuite, femme, maman, voilà. Et moi, j'ai vécu l'injonction alimentaire en étant enfant parce que on était là-dedans. On parlait pas de bio, on parlait pas de choses bonnes ou mauvaises. En fait, t'étais malade, tu mangeais pas. Chez nous, ça a toujours été comme ça. On nourrit pas la maladie. Donc, on avait le droit à boire de la limonade, ça faisait passer le mal de gorge. Et puis, on mangeait le moins possible. Enfin, on avait toujours un bouillon, des petites coquillettes, voilà. Mais on nourrissait pas la maladie. Et il y avait ce rapport où l'alimentation, déjà, c'était quand même quelque chose...
Médicament,
Ouais, c'était... c'est ça. Ça soignait. Mm-hmm. Ou ça rendait malade. Ou ça pouvait rendre malade aussi, je pense. J'ai pas d'exemple comme ça. Mais je me souviens qu'au printemps, on allait tous chercher les pissenlits, donc ces petites... les petites feuilles de ces fleurs jaunes, parce que ma grand-mère disait, c'est la première salade, c'est celle qui nettoie le foie. Ouais. Et quand j'ai fait l'école d'herboristerie des années plus tard, je me suis dit, mais ma grand-mère était herboriste, en fait, tu vois. Mais à l'époque, c'est une salade qui est assez amère, donc c'était un peu compliqué de manger ça.
Oui, et tu as eu plusieurs vies avant ta vie bruxelloise. Est-ce que tu peux nous parler de ta vie dans le Jura ? La montagne a une place importante dans ta vie et celle de ta famille. Qu'est-ce qui t'a fait quitter cet environnement et qu'as-tu ressenti en la quittant ?
Alors, je considère que je suis eu mille vies. Je sais pas, combien un chat a deux vies, dit-on ? Neuf, peut-être ? Mais moi, j'en ai eu plus, je crois. En fait, j'ai toujours eu la bougeotte. J'ai eu des études un petit peu par-ci, par-là. Je commençais quelque chose et puis je changeais. J'étais pas une très, très bonne élève. J'étais plutôt un peu... On a beaucoup dit que j'étais feignante. J'étais plutôt, à mon avis, j'avais envie d'autre chose. Mm-hmm. Et j'ai eu du mal à m'adapter au système scolaire. J'ai eu la chance de tomber pendant 2 ans au collège, chez des sœurs qui avaient mis en place une pédagogie bien particulière, donc qui était basée sur le choix de l'élève et pas sur le choix des professeurs. Donc c'était vraiment quelque chose de chouette qui m'a réconciliée avec l'apprentissage. Mais l'école traditionnelle, ça a été vraiment compliqué. Donc j'ai essayé pas mal de choses. Et puis mon parcours, il a vraiment été lié à des rencontres qui ont entraîné d'autres rencontres, qui ont fait que j'ai changé. Et c'est comme ça une suite de gens qui m'ont amené à faire autre chose. La petite anecdote, c'est que l'année de mon baccalauréat, je ne savais pas du tout ce que j'allais faire après. Et puis, il y a une fille qui me dit dans ma classe, moi, je vais passer un concours à Strasbourg pour s'occuper de jeunes enfants. À l'époque, j'étais animatrice en centre de vacances. Je me suis dit, oh, bah tiens, je vais m'inscrire à ce concours avec toi et on va y aller ensemble. Et en fait, j'ai eu cette école et pas elle. Oui. Et en fait, tout mon parcours a commencé un peu comme ça. Et ça, c'est après... C'est un peu comme des cycles comme ça qui se reportent régulièrement avec des gens qui sont un peu moteurs de quelque chose. Je sens parfois que j'ai pas toujours décidé moi-même, mais que ça a été un.
Tu réponds.
Ouais, une réponse, une espèce de vent qui te pousse vers quelque chose. Et voilà. Et puis de là, j'ai rejoint la zone de montagne pour travailler comme éducatrice. Puis ensuite, j'ai eu la possibilité, et vraiment ça a été quelque chose d'important dans ma vie, on m'a offert la possibilité de créer une halte garderie en milieu rural. Donc c'était un partenariat avec une commune, et ça a été vraiment, j'avais 21 ans, 22 ans, c'était vraiment un truc où on m'a laissé carte blanche pour créer quelque chose d'assez incroyable. Donc, ça a été mes premières vraies responsabilités. Mmh. Et puis après, c'est un peu parti dans tous les sens. Donc, j'ai commencé par faire une formation qui s'appelle le Jean de Pays. C'était une formation qui avait été ouverte par la Chambre d'agriculture du Doubs pour les conjointes, souvent conjointes, d'agriculteurs qui voulaient, sur la ferme, développer une activité touristique pour gagner un peu d'argent. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de statut, alors ça c'est des choses très franco-françaises, mais les femmes paysannes n'avaient pas de statut, elles n'étaient ni salariées de leur mari, ni agricultrices. C'était un peu compliqué. Et aujourd'hui, il y a un statut qui les protège, mais ça veut dire qu'elles n'avaient pas de retraite, qu'elles n'avaient pas de salaire. Enfin, c'était l'époque où moi, j'avais rencontré aussi des gens qui avaient créé une ferme communautaire. Et c'était là que je trouvais un petit peu l'essence de mes journées. Mes enfants allaient à l'école, enfin voilà. Donc je faisais du jardin, je m'occupais des chèvres. C'est là que j'ai appris à faire du fromage, parce qu'un jour, il fallait remplacer la fromagère. Enfin, c'était vraiment chouette. Donc c'était un peu le moment où, avec Christian, mon compagnon, qui est accompagnateur en montagne, on a senti qu'il y avait un truc au niveau professionnel, qu'il fallait qu'on passe à quelque chose qu'on maîtrisait vraiment nous-mêmes. Mmh. Et c'est devenu après la montagne de Modestine. Cette formation m'a appris l'histoire de mon pays, la géographie, pourquoi il y a des vignes dans le Jura et en même temps il y a de la montagne où on a des stations de ski. Enfin, on apprend beaucoup de choses, les métiers d'avant, et ça nous permet d'accueillir les gens dans la région en leur parlant vraiment du pays. Mmh. Et ça se rapprochait vraiment de mon idée de paysan. Paysan, c'est celui qui vit du pays au pays. Et ça me plaisait bien. Et c'est comme ça que s'est créée donc, cette structure qui était d'abord une association, puis ensuite une structure agricole. On avait le statut d'agriculteur qui s'appelait la montagne de Modestine. Modestine parce que c'était l'âne bien connu de Stevenson. Et on avait un troupeau d'ânes. Christian faisait des balades guidé avec des ânes battés, et on accueillait les gens dans un gîte qu'on louait dans le village où on habitait. Donc voilà, ça c'est ma vie. Elle est partie de quelque chose de très structuré, la petite enfance avec des règles, avec tout ça, vers quelque chose qui a un peu explosé dans tous les sens. Oui.
Et de nouveau. De tout à créer.
Oui, tout à faire, tout à inventer. On a eu de la chance, ça a été une période un peu plus faste d'un point de vue économique. Donc, il y avait les parcs naturels qui se créaient en France, donc il y avait des subventions de l'Europe. Mm-hmm. C'était aussi un moment où la PAC, ben, c'est très d'actualité, donc la politique agricole commune venait de changer et on a eu la chance d'être rémunérés non pas sur notre revenu agricole, c'est-à-dire qu'un paysan, normalement, il produit du lait, on lui paye son lait, même si aujourd'hui, on sait que ça ne paye pas sa vie. Oui, mais... Et nous, on n'avait pas d'obligation de revenu agricole, c'est-à-dire qu'on était payé, subventionné, on va dire. C'était pas on n'est pas payé, on est subventionné pour entretenir des espaces naturels qui étaient protégés. Donc ça, c'est quand même un beau cadeau. Ce qui ne veut pas dire que je suis... d'accord avec ce qui se passe dans l'agriculture aujourd'hui et que je soutiens mes collègues paysans. Oui. Pas ces gros agriculteurs, mais ces paysans qu'on n'entend pas et qui ont bien du courage et bien du talent à vivre comme ils ont décidé de vivre. Ouais. Donc voilà, c'est un peu parti de là. Et puis bah, après, pareil, une rencontre avec une herboriste. On fait une balade dans la nature. Cette fille, Isabelle... Et arrive, elle nous dit bonjour, voilà, aujourd'hui on va pas beaucoup se promener parce que j'ai une entorse, elle a des béquilles. Donc je me dis, waouh, bah, franchement, ça va pas être. Et en fait, sur allez, un carré de 3 mètres sur 3 mètres, on a passé 2 heures à regarder toutes petites plantes qui se mangeaient, qu'est-ce qui se passait là, ces fleurs, à quoi elles servent, enfin voilà. Et ça m'a aussi, voilà, c'est comme tu dis, ça m'a happé un peu quelque chose et donné de la curiosité vers quelque chose que je connaissais. Qu'il me semblait ne pas connaître. Et je suis partie à Lyon faire une école d'herbaliste, puisqu'en France, on n'a plus de diplôme d'herboriste. Peut-être ça va revenir, mais voilà. Et c'était une nouvelle... Une nouvelle voie encore.
Un complément, parce que dans la montagne, c'est quand même...
Une petite branche, ça, tu vois. C'est plutôt des cordes à un arc, et j'en rajoute. Ce qui fait que parfois, par moment, je me disais, bon, allez, il faudrait peut-être trouver un petit boulot salarié, avoir une vie un peu posée et tout, bah, ça marchait jamais. Parce qu'en fait, les gens comprenaient pas ce CV complètement, complètement dans tous les sens. Et voilà. Et puis, j'avais quand même, là, j'avançais aussi. C'est-à-dire que, il y a des choses que j'ai ratées. Par exemple, toute, l'informatique, ça a été quelque chose d'assez difficile pour moi. Donc, je me suis pas du tout branchée là-dessus. Même aujourd'hui, encore avec Léo, il rage parfois en me disant, mais tu sais pas faire ça. Ben non, je sais pas faire ça parce que ça m'intéresse pas et que.
T'as autre chose à faire.
J'ai des intérêts autant ailleurs, quoi. Donc voilà, cette vie dans le Jura, elle a été hyper riche, compliquée, parce que parfois la vie à la campagne, c'est pas simple. Et ça va être le lien de dire pourquoi je l'ai quittée. suite à cette activité d'agriculture qui s'est terminée un petit peu rapidement parce que je crois qu'on n'avait pas trouvé notre, rythme en famille, en couple. Moi, j'aurais aimé créer quelque chose de plus global avec d'autres personnes pour s'entraider aussi parce que des animaux, il faut être là tout le temps. Quand ils se sauvent et que t'es parti emmener tes enfants à la piscine, tu rhabilles tout le monde et puis tu reviens. Enfin, c'était un peu compliqué pour moi. Et j'ai eu la possibilité, tout à fait par hasard, de rencontrer les gens du comité interprofessionnel du comté, donc le syndicat des producteurs de comté, qui, à l'époque, créait justement un réseau, on va dire, qui s'appelle les routes du comté. Donc rien à voir avec la route du vin d'Alsace, par exemple, où tu suis un parcours. Mais là, c'est vraiment une espèce de guide pour les gens qui viennent se balader en Franche-Comté. Et tu peux trouver dans ce guide tout ce qui a trait au comté. Mais ça va loin, ça va du producteur de lait. Mais ça, tu peux aussi visiter une fruitière, tu peux visiter des caves, tu peux manger au restaurant où il y a un menu 100% comté. Tu peux aller voir la personne qui va... la petite entreprise qui fait les bandes pour mettre sur le long des fromages. Enfin, voilà, tu vois, c'est tout ce réseau qui tourne autour du comté. Et puis, je cherchais des gens pour mettre en place un peu des animations. Et j'ai commencé comme ça, tout doucement, dans le Jura. Et puis, un jour, on m'a demandé si je voulais pas aller un petit peu faire de la promo à l'extérieur et entre autres à l'export. Et c'est comme ça que je suis venue en Belgique la première fois. Je suis venue à Bruxelles. Je suis venue à Bruxelles pour assister et amener ma petite patte, ma petite touche, à une dégustation de comté avec les bières Cantillon. Donc, je suis tombée de haut quand j'ai découvert ce qu'était le lambic et la gueuse. Et ça a été une rencontre assez forte avec toute une filière, donc la filière brassicole bruxelloise. Donc ça, c'était dans les années 2000-2005. Il n'y avait pas toutes ces petites brasseries, mais il y avait toute une énergie autour de la gueuse. Et ça, c'était quelque chose de chouette. Je retrouvais cette énergie qu'on avait chez les producteurs de comté. Pour moi, la brasserie Cantillon, c'est presque une fruitière parce qu'il y a tous les mêmes éléments. Il y a le bois, il y a le cuivre, il y a la fermentation, on sent les odeurs, enfin voilà. Et puis, j'ai fait encore d'autres choses. Après, j'ai arrêté tout ça, je suis partie travailler pour Biocoop. Voilà, j'ai fait des petits boulots. Et puis un jour, je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce que tu souhaites faire, quoi ? Et quand même, ce qui m'avait rendue la plus heureuse dans ma vie, c'était le fromage, vraiment. Cette découverte des gens qui travaillent pour un produit, pour la qualité de ce produit, même s'il faut mettre des parenthèses, mais écologique.
Oui, 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 oui.
Voilà. Mais voilà, je crois que c'est ce qui m'avait rendue la plus heureuse. Et il s'est trouvé que parmi toutes les connaissances que j'avais à Bruxelles et tout ce bonheur que j'avais amené en Belgique, il y avait Bernadette qui était propriétaire d'une fromagerie à Waterloo et qui cherchait quelqu'un pour son magasin. Et voilà, je suis arrivée comme ça. C'est mon arrivée à Bruxelles par Waterloo.
Ouais, c'est un bel arrêt.
Oui, oui, oui. Enfin, c'est pas l'endroit où je m'étais un petit peu trompée sur. Je viens vivre dans ma tête, je venais vivre à Bruxelles et parce que c'est tout près.
Oui.
Mais en fait, c'est pas du tout la même vie et les gens vont peu sur Bruxelles, même si c'est hyper simple.
Oui, oui.
Ouais.
Et surtout, c'est pas du tout la même région, la même, le même microcosme.
Oui. Tout à fait.
D'énergie, de rencontre.
Mais je crois que Bruxelles, de toute façon, il y a rien qui ressemble à Bruxelles. Enfin, c'est une ville tellement particulière. Enfin, voilà. C'est pour ça que quelques années après, j'ai décidé d'ouvrir la frontière.
Ouais. Et justement, aujourd'hui, toi et Léo êtes à la tête de La Fruitière, qui est un lieu dédié au fromage, bar à fromage. C'est aussi une laiterie et une fromagerie. Alors déjà, comment as-tu embarqué ton fils avec toi ? Et pourquoi La Fruitière est-elle là où elle est ?
Alors, pourquoi là où elle est ? Ça, c'est hyper important. C'est à nouveau lié à ce réseau. Et j'avais très envie d'être au centre-ville parce que à l'époque, mon QG à Bruxelles, c'était le Mouder Lambic. Pour toutes les raisons liées à ce travail que j'ai aimé faire avec la gueuse. Et donc, j'aimais ce quartier, je trouvais que c'était un endroit à la fois très typique, ce centre-ville, mais aussi plein de touristes, donc ça laisse aussi une clientèle différente. Dans ma tête, au début, je voulais vraiment faire une petite crèmerie à la française, quoi. Et comme Léo, à ce moment-là, était lui à Paris, et quand je lui ai dit, je lui ai expliqué mon idée de m'installer à Bruxelles. Il m'a dit, bah, moi, ok, je viens avec toi et on fait un truc ensemble. Les idées ont commencé à fuser et cette idée de bar à fromage, elle nous tenait vraiment à cœur, à lui comme à moi. Mm-hmm. Puisqu'en fait, notre activité agricole, elle était aussi basée sur l'accueil, sur expliquer les choses, raconter des histoires. Les petites fleurs, c'est ça aussi, hein, c'est aller se balader et raconter l'histoire de la princesse qui a mangé telle fleur. Enfin, voilà. Et donc, ce bar à fromage, il est vraiment né comme ça. C'était vraiment l'idée d'avoir une table d'hôte et d'accueillir les gens là de façon assez simple. C'est pas, il n'y a pas de grande cuisine, il n'y a pas de chef. Les produits sont juste bruts, travaillés comme on a envie qu'ils soient travaillés. Et l'important, c'est de pouvoir en parler, de parler de comment on va les accorder, avec quoi, faire aussi toujours des nouvelles découvertes. Et voilà, et ça s'est passé comme ça, et c'était la grande époque du conflit autour du piétonnier. On a fait ça un peu contre cette marée de gens qui disaient, mais vous êtes fous, enfin, on a une banque qui nous a pas reçus.
Oui.
Ouais, la banque a pas voulu nous recevoir en disant, non, nous, c'est pas la peine. Maintenant, créer quelque chose dans le piétonnier, c'est niette, c'est pas la peine de venir, quoi. Donc c'était quand même un peu violent, parfois. Et puis voilà, on regrette pas. Moi, je suis très contente. Alors oui, certes, il y a des quartiers qui sont certainement plus propices à gens de commerce. On est vraiment à la limite de la zone touristique et du quartier Gare du Midi à Neuss-Ens. Mais justement, c'est tout ça qui fait que notre clientèle est complètement différente, que c'est un challenge de trouver des prix pour tout le monde. Voilà, je trouve que ça nous ressemble bien en tout cas. Et puis, on a les étudiants quand même du quartier aussi.
Oui, parce que moi, j'ai fait donc l'école des Beaux-Arts à côté de la fruitière et j'ai allé chercher tous mes sandwichs. Et maintenant, j'habite un peu loin, donc je ne les vois pas régulièrement. Mais
on aime bien te voir. Oui, c'est quelqu'un. C'était une belle rencontre en tout cas.
Très belle rencontre.
Ouais.
Et en tant que consommateur, justement, on ne se rend pas toujours compte du travail qu'il y a derrière le comptoir. Dans tes caves, tes recherches de producteurs, quelles attentions dois-tu apporter à ces belles croûtes que tu chéris précieusement dans tes caves?
Alors là, c'est peut-être la partie la moins sexy du travail. C'est que pour moi, ouais, c'est ça. Pour moi, comme tu dis, ce beau comptoir, ces belles croûtes, c'est le plus gros du travail, c'est l'hygiène et le soin apporté au fromage. Ça demanderait, je pense, un temps plein. C'est un vrai métier que tous les jours, voilà, retourner, vérifier, sentir, goûter. C'est un vrai boulot. Je regrette d'ailleurs de pas avoir assez de temps moi-même pour le faire, mais on peut pas être partout. C'est compliqué aussi parce que en Belgique, il y a pas d'école, de réelle école de formation. Donc, c'est difficile de trouver des gens formés qui connaissent bien le produit. Donc, voilà, on fait avec. Mais oui, je pense que parfois, quand on se fait malmener par un client qui arrive à 11h moins 10 et qui le magasin ouvre qu'à 11h et il veut absolument rentrer, on lui dit non, attendez 5 minutes, s'il vous plaît. C'est que les gens comprennent pas qu'on est là depuis tôt le matin pour mettre en place le magasin, qu'on est là tard le soir. Parfois, je le dis souvent, en petite anecdote, j'aimerais tellement vendre des chaussettes parce qu'une fois que la porte, c'est l'heure, on ferme la porte et les chaussettes, elles restent tranquilles.
Elles ne vivent plus.
Oui, c'est ça.
Mais justement, il y a fin de vie.
Oui, chez nous, il y a beaucoup de vie, ouais. Mais en même temps, justement, la partie qui est sympa, c'est de ça y est, c'est le printemps, il va y avoir plein de petits légumes, de petits fruits qui vont ressortir, de créer des choses, d'amener de la couleur dans ce comptoir, d'amener des sourires sur le visage des clients, des questions, enfin. Voilà, c'est aussi ça. Moi, j'aime travailler les accords. Je crois que pour moi, le sens, le plus important, c'est le nez. J'aime sentir les choses. Je trouve que c'est quelque chose qu'on a oublié. Ça pue ou ça sent bon, mais c'est soit du parfum, soit des mauvaises odeurs, mais on cherche pas. Enfin, moi, j'aime sentir le pain. J'aime sentir même l'eau. Je trouve que quand tu bois l'eau du robinet, ça, c'est un petit peu ma Madeleine de Proust. Quand j'arrive chez moi, on a une eau qui est hyper chouette. Boire un verre d'eau bien frais dans la montagne, au robinet de la maison. C'est pas la petite Heidi qui va boire à la source, on n'en est plus là. Mais ça, c'est des choses qui sont importantes. Et en fait, le feu de notre travail, ce qui donne vraiment le côté, c'est ça. C'est de se dire, ok, c'est énorme, ce que tu fais, c'est énorme. Ok, les gens te le disent, t'y crois pas, mais c'est vrai. Mais en fait, qu'est-ce qui te plaît, c'est tu te rappelles, Fred, quand t'as goûté la crème de marron avec le Roquefort?
Tu m'as fait aimer le Roquefort.
Ouais, mais je t'ai surtout vu découvrir quelque chose. Et je me suis dit, découvrir qu'on aime quelque chose qu'on croit ne pas aimer ou qu'on n'aimait pas avant. C'est ça. Moi, c'est des petites batailles au quotidien. Et c'est mes petites pépites. Voilà. Et parfois, on n'est pas toujours content de ce qu'on fait et ça arrive. Mais bon, parfois, ça marche.
Ça, je me dis, peu importe la passion, il y a un moment, en fait, quand tu as fait ton métier, c'est un peu inévitable. Il y a toujours...
Il y a le revers de la médaille.
Ouais. J'ai l'impression que dès qu'on plonge entièrement dedans... Oui.
On se laisse un peu surpasser par le négatif, le difficile.
Oui.
Mais je crois aussi que c'est parce que il me semble que les gens nous idéalisent un peu, les indépendants, tu vois.
Oui, c'est sûr. Parce qu'il y a cette liberté, il y a cet esprit
d'entreprise.
Oui, on fait, entre guillemets, ce qu'on veut de notre temps, mais en fait...
On n'a pas de temps.
Et parfois, on est quand même un peu prisonnier de ce qu'on a créé. Et si on l'extraire, c'est d'autant plus difficile parce qu'on sait toutes les conséquences qu'il y a derrière.
Oui, moi, je dis souvent que ce magasin, c'est un boulet. Alors, c'est un boulet doré. Je me plains absolument pas et je l'ai choisi et j'y suis, je m'y sens bien. Maintenant, c'est un nouveau challenge aussi, c'est de savoir ce qu'on va en faire. Moi, je vais bientôt avoir 60 ans. La transmission, c'est important. Je suis très, très contente que Léo soit là parce que on l'a monté ensemble et que ça lui appartient aussi et que j'espère qu'il s'épanouira encore plus quand je serai partie. Mais en même temps, est-ce que c'est un réel cadeau à lui faire? Et puis la difficulté, c'est aussi toute la difficulté du monde Horeca aujourd'hui et du monde des indépendants, c'est trouver du personnel, mais pas juste du personnel qui vient faire une tâche, c'est des gens qui veulent s'impliquer.
Toi et Léo ne vendez pas de simples fromages, mais ce sont des produits porteurs de sens et surtout d'histoire. Quelles sont les valeurs importantes pour la fruitière, pour toi, pour Léo? Et un jour, tu m'as expliqué l'histoire de l'Étiva et de son histoire, de sa fabrication. Et j'ai ressenti une passion incroyable et tu m'as porté avec toi dans cette montagne. Est-ce qu'il y a une histoire de fromage qui te tient particulièrement à cœur plus qu'une autre? Bien qu'elles le sont peut-être toutes.
En fait, Fred, tu sais que je suis bavarde.
Oui.
Je crois que j'ai toujours aimé raconter des histoires. J'ai aimé les contes de mon enfance, j'ai aimé les livres, même si je lisais pas beaucoup, mais du coup, on m'en lisait beaucoup. Au magasin, j'aime raconter des histoires. Alors, des histoires de fromage, oui, mais aussi des histoires de gens, des histoires... Aujourd'hui, on parle quand même beaucoup de problèmes de sécurité alimentaire. Je crois qu'il y a des choses qu'il faut dédramatiser, d'autres qu'il faut appuyer. On a des clients qui arrivent aussi avec leur vie, leur bagage, et parfois, ça va pas, ils ont envie aussi d'en parler. Donc... Le fromage est parfois juste le passeur de quelque chose, ou le prétexte à démarrer quelque chose. Ouais. Les histoires de fromage, étant française, le fromage, c'est vraiment notre tradition, notre histoire. Mmh. Toutes les régions de France, quasi, ont leurs histoires liées à un type de fabrication de fromage. Et ça, c'est quelque chose qu'on apprend quand on a envie d'aller plus loin dans le métier. C'est pourquoi la bûche de Sainte-Maure a une paille à l'intérieur, pourquoi elle est en forme de bûche, pourquoi dans les montagnes, il n'y a que des gros fromages et que dans la plaine, il y a des petits fromages, pourquoi au nord de la France et en Belgique, il y a beaucoup de fromages qui sont frottés à la bière, au vin, à la saumure, et que les croûtes sont souvent puantes. Ça, c'est des choses qu'on apprend. Et ces choses-là, c'est aussi notre façon de vendre ce fromage. Et c'est pour moi la plus drôle. C'est là où on peut y amener de l'humour, où on amène du deuxième degré, où on va pas forcément dire, voilà, ce fromage, il est fabriqué comme ci et comme ça. Si les gens sont partants là-dessus, moi, si je pouvais fabriquer du fromage tous les jours avec les gens, ça me plairait bien. Mais l'histoire, c'est raconter un peu de soi, c'est un peu raconter de ce qui nous a... Enfin, j'adore, tu me dis quelle est l'histoire d'un fromage. Bon, l'Étiva, c'est parce que c'est des rencontres encore. C'est aller dormir une nuit dans un chalet à l'Étiva et entendre le matin tout le monde qui se lève super tôt pour aller traire les vaches, puis ensuite fabriquer un fromage avec... Les gens qui sont là, qui ont une chaudière, un feu de bois, et qui font du fromage, quand tu l'as dans ton assiette, tu te dis, waouh, mais c'est un joyau. Oui. Mais oui, et tout ça, et pourquoi ce fromage, quand vous le sentez, il sent un petit peu la fumée, parce que dans la pièce, il y avait un énorme feu de bois. Ces choses-là. Moi, mon histoire préférée, c'est quand même celle du comté, parce que j'ai baigné dedans, parce que ma famille était là-dedans, parce que j'ai eu toujours plein d'anecdotes, parce que j'ai aussi mes anecdotes d'enfant quand on allait en acheter. Je crois que c'est... Parfois, les gens me disent « Oui, mais tu parles que du comté. » Ben non, je parle pas que du comté, mais je suis...
Tu es le comté.
Du comté. Je suis pas le comté, non, non, non. Mais je suis du comté.
Ben oui, oui.
Ouais, ouais. C'est et c'est, ça s'appelle la Franche-Comté. Enfin, mm-hmm. C'est, on peut pas... Ben, je crois qu'il n'y a pas que moi, mais si t'es alsacien, si t'es... J'en sais rien, bourguignon, chaque fois que tu vas chez des copains, t'emmènes des trucs de ta région. Mm-hmm. C'est vrai que moi, je me souviens qu'on part... Mais encore maintenant, on part jamais sans un morceau de comté si on va chez les amis, une bouteille de vin du Jura. Enfin, il y a tout ce contexte qui fait que tu es dans un
microcosme.
Oui, oui, oui. Ouais, ouais. Vraiment dans quelque chose qui t'a forgé, quoi. Mm-hmm.
Je pense qu'on a moins ça en Belgique parce qu'on a moins ces produits de terroir vraiment ancrés dans chaque région et encore, quoique. Mais par rapport au fromage, c'est sûr qu'en France, je crois que chaque région a ses
spécialités.
Oui, ses spécialités. Et donc, d'office que ça fait partie de son histoire. Et de...
Mais il y a l'Italie. Enfin, quand on parler des Italiens, de leur fromage, oui. S'ils sont de la région de Parme ou s'ils sont de la région, s'ils sont de Sicile, ils vont être, en plus, eux, ils sont encore plus, plus démonstratifs oui. dans leur amour de ces produits de terroir. Mais, j'ai fait un très, très beau voyage, en 2019, en Écosse et en Angleterre, à la recherche, justement, je suis allée visiter des producteurs, fermiers. Je veux dire, l'histoire des fromages en Angleterre, on l'a complètement bannie parce qu'à une époque, il n'y avait plus de question de faire du lait cru et tout ça. Mmh. Mais il y a des gens qui se sont battus pour ça et qui se battent encore. Et la dernière pépite que j'ai trouvée cet automne, c'est une famille anglaise. Ils ont 35 vaches. Et leur plus jeune fille, qui a 25 ans... parle de cette ferme et de son fromage comme si c'était c'est de l'or parce que c'est lié à l'histoire, c'est lié à la tradition de sa famille, c'est des combats qu'ils ont menés pour avoir le droit de continuer à faire ça, enfin. Et c'est pareil. Alors effectivement, tu parles de la Belgique, je pense qu'il y a pas effectivement de tradition réellement fromagère en Belgique. On a fait du fromage en Belgique parce que dans toute l'Europe, on faisait du fromage pour utiliser du lait et pour se nourrir, pour conserver ce lait qu'on ne savait pas conserver. Il y a quand même toute l'histoire du Herve qui est assez importante et des monastères, donc les fromages d'abbaye. Mais je pense qu'on pourrait faire le même travail sur la bière, par exemple. Oui, tu vois. D'ailleurs, ce qui se passe autour de la Gueuse, c'est ça aussi, c'est un tout petit territoire géographique, une tradition, une histoire, des hauts, des bas, comment les gens s'en sont sortis, comment les hommes ont fait pour maintenir ce produit. Et c'est ça qui est chouette.
Donc, c'est magnifique.
Ouais, ouais. Moi, enfin, je trouve qu'il y a des choses qui sont incroyables, mais on va trouver ça dans les légumes.
Oui, oui aussi.
Des gens comme chez Cocopelli qui font pousser des graines qui n'avaient pas poussé depuis je sais pas combien de temps. Enfin, et je cite que ce que je connais, mais je pense qu'il y a plein de gens qui sont incroyables, quoi. Et c'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment, vraiment triste ce qui se passe avec l'agriculture en Europe. Enfin, dans le monde entier, mais on va parler de l'Europe. Ces paysans qui, parce qu'il y en a encore, hein, qui font vraiment un chouette travail. C'est vraiment un travail qui rend service à tout le monde. Les paysages, par exemple, le Jura, tout le monde dit, c'est beau. Ouais. Ben, s'il n'y avait pas le comté, le Jura, il n'aurait pas la même tête. Il y aurait de la forêt partout. Les pâturages de ce qu'on appelle donc le pré-bois, la limite entre les pâturages et la forêt.
Oui.
Bon, ben, s'il n'y avait pas des vaches, des génisses en tout cas, parce que les vaches, on essaie de leur donner que de l'herbe, mais. Des génisses, des chevaux, des chèvres, des moutons qui viennent manger un peu tous ces buissons, ben ça serait déjà la forêt et donc ça serait beaucoup plus foncé, beaucoup plus noir, beaucoup plus triste en fait.
Oui.
Et tout ça c'est important. La diversité floristique, elle vient aussi du fait que sur certains endroits dans les montagnes, on ne peut pas amener des tracteurs, donc on va pas amener d'engrais, on va pas, et donc la nature, c'est ce qu'on appelle la prairie naturelle, la nature va rester presque naturelle, dans la mesure où si on y amène des animaux, ça va être différent. Mais, voilà.
Il faut encore permettre à ces bêtes d'y accéder.
Oui.
Et ça, j'imagine que c'est aussi des combats.
Bah oui, c'est une autre agriculture. Mmh. C'est peu de bêtes, des bêtes qui sont pas encore génétiquement trop modifiées pour parce qu'il faut qu'elles puissent marcher, qu'elles n'aient pas tout le temps mal aux pieds. Enfin voilà, c'est une autre agriculture et je sais pas si je peux faire de la pub, mais j'ai une amie virtuelle, puisqu'on ne s'est vu qu'une fois sur Instagram, qui écrit des choses incroyables sur l'agriculture. C'est Marie qui, avec Clément, ont créé l'agriculture poétique. Et au-delà de ce qu'ils vivent, qui est une forme de paysannerie, la réflexion philosophique sur la paysannerie, et pas le tu sais, on appelle les gens les exploitants agricoles ou l'exploitation, mais non, on n'exploite pas la terre. Non. On devrait pas,
au contraire. Oui, oui. On devrait faire corps avec elle.
Et Marie, elle a une très très belle, elle écrit une très belle chose et qui remue sur la mort dans une ferme. Ben oui. Quand on élève un troupeau, on perd des animaux.
On est confronté à ça.
Ouais, ouais. Ou elle écrit aussi sur l'accès à la terre. Si t'es pas paysan de père en fils, ben t'as pas toujours du terrain à toi. Donc est-ce que la bataille urbanisation, agriculture dans certaines régions, c'est pas un peu n'importe quoi? Est-ce que ouais. Donc
je mettrai le lien.
Ouais, avec plaisir. Enfin, je crois que c'est vraiment une réflexion qu'on peut avoir à notre petit niveau.
Oui. Puis c'est important, je trouve, de savoir aussi, de connaître la réalité du terrain. Et je trouve qu'on est un peu déconnecté dans nos assiettes du trajet que nos légumes, notre viande, nos fromages ont de leur prémisse, de la graine, justement, jusqu'à...
Notre assiette.
Oui, notre assiette.
Ouais. Oui, et puis ça devient un combat de classe, en fait, aussi. Hein. C'est compliqué, enfin... Ouais, je trouve ça assez triste, justement, d'être obligé de... En fait, ça fait un peu esclavagisme. Enfin, moi, quand je vois ces paysans qui viennent manifester et qui te racontent combien ils gagnent pour le chou-fleur que tu viens d'acheter 5 euros, tu te dis, moi, je me fais avoir, mais qu'est-ce que je...
Et eux, quoi.
Ouais.
Et comment ce prix évolue-t-il de eux? Je pense que c'est 80 cents qui vendent leur
chou-fleur. Ouais, c'est à peu près ça.
Qu'est-ce qui se passe entre eux? Mais bon, ça, c'est un autre débat, mais c'est sûr que c'est important de reprendre le pouvoir sur... en tout cas, au moins avoir la réflexion de se demander... la réflexion de...
D'où ça vient, comment je peux faire.
Oui.
Mais d'ailleurs, je trouve qu'il y a plein de choses qui se passent à Bruxelles, enfin, autour de Bruxelles, des maraîchers qui s'installent... après, c'est toujours le même problème en Belgique. Ça se passe aussi comme ça pour les fromages. C'est le problème de distribution. C'est que ce sont des choses qui sont tellement nouvelles encore qu'il n'y a pas de système de distribution qui valorise, en fait, à son juste niveau.
Oui.
Enfin, moi, mes légumes, j'ai envie de les acheter à Anderlecht. Enfin, au gars ou à la fille qui les plante. Et je trouve ça chouette. Il y a des belles... Il y a des expériences qui doivent durer, qui doivent être des vrais projets de vie. Mmh. Et ces gens, ils mettent tout leur cœur. Enfin, moi, je me retrouve là-dedans. Quand on a commencé à la ferme, c'était assez terrible pour ça. Enfin, je veux dire, c'est une vie où t'as pas de vie. Enfin, alors heureusement qu'on a eu des copains qui venaient, parce que c'est ça qui fait que ça marche. C'est que les gens viennent à toi. Et ils te filent un coup de main, mais en tout cas, ils viennent, ils mangent avec toi. Et tu te dis, ah, ben voilà, je suis pas toute seule avec mon histoire,
là.
Et je pense. En tout cas, à Bruxelles, je trouve qu'il y a des belles... Sur le maraîchage particulièrement, il y a quand même des belles choses qui se mettent en place.
Je trouve aussi qu'il y a des belles initiatives.
Je pense aux filles de Smala, par exemple. C'est courageux et c'est merci de faire des choses comme ça, quoi.
Bien sûr. Ouais. Heureusement.
Ouais. Et puis, il y a plein de femmes qui se bougent. Ça, c'est beau aussi. C'est
très beau.
Ouais.
Tu t'intéresses à la nutrition et au profilage alimentaire. Quelles ont été tes découvertes et quel est ton rapport à l'alimentation? Tu nous en as déjà parlé un petit peu en fond, mais aujourd'hui, comment tout ça a évolué?
Ben,
Peut-être pas cette semaine.
C'est ça. Voilà. Comme je te le disais avant le début de l'enregistrement, c'est pas la bonne semaine. Mon rapport à l'alimentation, je crois qu'il est un peu resté le même, sauf qu'il est plus adulte et qu'il y a des choses, que je conscientise, mais que je ne, en pratique, c'est peut-être pas toujours simple.
Et en même temps, je me dis, c'est peut-être aussi la petite fille. Tu vois, quand tu me parlais en ce moment, Vérone disait qu'elle avait très envie de chocolat. Je me dis, mais en fait, c'est aussi donner cette place à cette petite fille.
Oui, je crois. Ouais.
Et c'est, je trouve ça aussi très intéressant.
Ouais. Je pense que t'as raison. Enfin, j'y pense tout de suite. C'est un petit peu un petit éclair. C'est par exemple, si j'avais pas bien mangé, j'avais pas le droit à de dessert ou tout ça, j'étais assez, relativement punie, entre guillemets. Hein. C'était très gentillet, mais... Et ça marque un enfant. Et ma grand-mère faisait des entorses à ça. Quand ma maman partait, par exemple, hop, j'avais droit à un petit bonbon à la violette ou à un petit carré de chocolat, justement. Et je me dis qu'effectivement, aujourd'hui, le fait d'être souvent un peu fatiguée de ce travail, je vis seule à Bruxelles, donc j'ai quand même des moments de solitude choisis et que j'aime. Mais il y a des moments où, effectivement, ce petit carré de chocolat, il est un peu le petit truc de la petite fille qui dit « Ah oui, j'ai fait tout ce que j'ai dû, j'ai pu tout... » C'est bien, maintenant j'y ai droit, quoi. Ouais, t'as raison. Mon rapport à l'alimentation, j'ai eu la chance de rencontrer une amie commune. Hein. Donc, Ben était d'abord cliente, enfin, Bibou était client, son mari. Et puis, j'ai rencontré Ben, c'est devenu vraiment, pour moi, une amie indispensable aujourd'hui. Ben, c'est quelqu'un qui est céramiste et qui s'est formé au profilage alimentaire. Donc, j'adore ce mot parce que ça me fait penser aux experts à Miami qui font des profils de meurtriers. C'est ça. Et je trouve ça très chouette. Et donc, l'idée, c'est de savoir ce qui est bon pour toi. Hein, on va le résumer comme ça.
Pour toi, uniquement toi.
Oui, c'est ça. Et ça, c'est vraiment une façon aussi de se découvrir... par un autre biais, c'est pas de la psychanalyse, c'est pas c'est juste t'es une machine, ton corps est une machine qui fonctionne avec tel et tel et tel carburant, et quels sont ceux auxquels tu dois faire vraiment attention. En fait, j'ai commencé à discuter avec Ben de l'alimentation parce que j'avais beaucoup de troubles de mémoire, et elle m'a fait remarquer que peut-être je mangeais pas assez gras, entre guillemets. C'est comme ça qu'on a commencé à discuter de l'importance du beurre cru, par exemple, c'est quand même un produit, on s'appelle crémier fromager, donc c'est quand même un produit qu'on vend souvent. Et elle m'a amené à me poser beaucoup de questions sur la provenance des beurres, sur leur goût, sur leur intérêt pour la santé. Et j'ai décidé de faire un travail avec elle. J'ai eu une alimentation, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais c'est aussi, j'ai eu par exemple des grands moments dans ma vie végétarien, parce que pour des questions vraiment politiques, et puis aussi pour des questions de goût et des fois de simplicité aussi. Oui. Après, on a élevé des animaux, donc à la ferme, c'est quand même plus vertueux d'élever les petits pour les manger que de les tuer à 48 heures. Un cabri, par exemple, soit on les laisse 2 jours avec les mères, 2-3 jours, le temps de mettre en place la lactation, et puis on les vend à l'abattoir ou à quelqu'un qui va les engraisser pour les tuer un peu plus tard. Soit on les élève pour nous, et le fait d'avoir un gîte et tout ça, ça a créé un besoin. On faisait des repas, on faisait des choses à base des animaux qu'on élevait, et c'est pas tabou. Et nos enfants étaient élevés là-dedans. Léo est un gros viandard, il adore ça. Et Marion, ma fille, est au contraire végétarienne, vraiment sans sourciller. Ils ont fait chacun leur chemin par rapport à ça. Donc Donc la nutrition pour moi, c'est il y a manger et se nourrir. C'est deux choses, deux questions que je me pose en général tous les jours, je crois. J'essaie de faire attention, j'essaie de suivre ce que m'a conseillé Ben, parce que je sens que si je le fais bien, je vais mieux, je suis moins fatiguée, ma vie est plus facile, on va dire. Après, c'est quand même contraignant quand on travaille de 9h à 20h de se faire des bons repas. Quand souvent on se fait la première pause dans la journée, il est 15h. et qu'on a à grignoter des petits fromages et du pain frais toute la journée.
J'imagine.
Donc, c'est pas simple. Donc, il y a des périodes où c'est plus fluide, et puis il y a des périodes où c'est compliqué. Ce qui est dommage, c'est que les périodes où c'est compliqué de bien se nourrir, c'est les périodes où on aurait plus le besoin de bien
bon
se...
plat.
Ouais, c'est ça. Et on a déjà parlé de ça ensemble.
Oui.
J'aimerais tellement que quelqu'un se lance sur de l'alimentation vivante, livrée à domicile, toute prête. Après, est-ce que c'est viable? Je ne sais pas. Mais c'est un peu le truc, c'est de se dire parfois, le Deliveroo de la bonne bouffe, ça serait trop bien, quoi. Donc, l'alimentation, c'est ce côté vertueux d'une alimentation paysanne, de trouver des bons produits. Alors moi, c'est ma tournée du dimanche. Je fais le boulanger, le boucher et ensuite les légumes. Et j'essaie de préparer le maximum de choses le dimanche. Mais il y a des dimanches où j'ai envie d'aller me promener aussi et de faire autre chose, où je suis invitée, où je vais au théâtre, peu importe. Et ces jours-là, je ne fais pas tout ça. Et je me trouve coincée parce que le lundi, il n'y a rien réellement ouvert. Et tant mieux, parce que je suis commerçante et je trouve que c'est bien d'avoir son lundi, y compris pour enregistrer des podcasts.
Oui.
mais franchement, je trouve qu'on est dans une ville où on a, en tout cas en centre-ville, on n'a pas vraiment de facilité pour trouver des bons produits facilement, quoi.
Mm-hmm.
C'est un peu bizarre d'ailleurs. Je ne sais pas s'il y a une explication à ça, mais bon, c'est les centres-villes.
Oui, oui.
Les petits commerçants disparaissent quand même.
Oui, puis je pense que, comme tu disais tantôt, c'est une population différente, des touristes.
Mm-hmm.
Et en même temps, pourquoi
Il y a quand même
c'est
des gens qui habitent.
Ouais, oui, c'est ça. Un appel.
C'est
voilà.
Un appel. Ouvrez des petits magasins.
Oui. J'entendais justement dans une interview que tu as donnée il y a très longtemps que tu parlais de la convivialité dans ton comptoir. Et je me dis, est-ce que tu... Enfin, je suis certaine, mais que tu as une place aussi importante à accorder à la convivialité à table, quand tu reçois, quand tu es reçu. Quelles sont les petites attentions que tu portes à une table, à tes invités? Comment est-ce que tu choisis tes invités? Est-ce que tu as le temps aussi?
Alors, en fait, j'ai toujours été quelqu'un à la campagne qui invitait beaucoup.
Mm-hmm.
On a tenu un refuge, donc de fin décembre à fin mars, où tous les jours, on avait une trentaine de personnes qui venaient dormir et fallait les nourrir le soir et faire le petit déjeuner. Et puis toute la journée, il y avait des gens qui passaient et tout ça sans eau courante et sans électricité. Donc ça m'a donné... j'aime cette challenge de faire des choses comme ça. Alors on fait souvent la même cuisine, c'est en plein hiver, on a déjà pas le choix et on est isolé dans la montagne. Mais ça m'a beaucoup... Ça m'a beaucoup bousculé dans ma cuisine. J'étais plutôt quelqu'un qui ouvrait plein de livres, achetait plein de livres de cuisine et essayait de trouver des recettes. En fait, je me suis plus retrouvée dans l'idée de qu'est-ce que j'ai et qu'est-ce que je vais faire. Donc ça, c'était bien. Après, la vie aussi à la ferme, c'était aussi avoir du monde très très souvent puisqu'on accueillait des groupes d'enfants, des familles. Donc, fallait préparer des pique-niques, et il y a toujours des challenges, en fait. Tu vois, c'est pas juste un repas qui passe de la casserole à la table. Comment je vais transporter ça? Comment le chaud, le froid? Enfin, bref. Donc, ça, c'est quelque chose que, enfin, moi, j'ai toujours eu un grand respect pour la nourriture. Donc, je pense que ça part de là. C'est-à-dire que, un respect parce qu'on m'a, inculqué ça, étant enfant, on jette rien, machin. Et voilà. Donc, aujourd'hui, alors ma vie en ville, elle a changé quelque chose d'important, c'est que je sais pas si c'est, je pense que c'est quand même lié à la vie d'urbain. On se retrouve plus souvent au resto que chez les uns chez les autres.
Vas-y.
Ben parce que déjà moi, il y a pas un soir dans la semaine où j'ai envie de recevoir du monde chez moi. Enfin, j'arrive à 20h, voilà, c'est un peu compliqué. Donc il y aurait que les week-ends pour faire ça. Mes amis sont quand même souvent en famille, donc c'est un peu... Ouais, je reçois beaucoup moins. D'ailleurs, je cuisine beaucoup moins, parce que cuisiner pour soi, c'est aussi quelque chose d'un peu...
Oui.
Un peu compliqué.
C'est un rapport différent.
Ouais.
Oui.
Donc, je mange très différemment. Par contre, quel plaisir, tous ces restos qui ouvrent, toutes ces choses à découvrir, enfin, le bouche à oreille, les collègues aussi, puisque en fait, on a des clients dans l'Horeca et on a envie de leur rendre visite. C'est presque aller manger chez eux, enfin, voilà. Et j'avoue que je vois plus ma vie sociale autour de la restauration. Elle est beaucoup plus au restaurant, ouais, qu'à la maison. Après, j'adore faire une fondue pour mes amis. J'adore aussi faire goûter des choses que je prépare, que je cherche. D'ailleurs, depuis 15 jours, là, on a mis en place un plat de la semaine à emporter ou à manger sur place. Donc, un plat au fromage. Et c'était fait par moi ou par Léo, de façon vraiment familiale. Il n'y a pas de chichi, il n'y a pas... Ouais. Mais avec des produits qui sont issus de la fruitière. Et puis, le reste est sourcé chez les gens avec qui on travaille. Avec les mêmes critères que ce qu'on fait sur les fromages. Ouais, j'aimerais qu'il y ait plus de gens. On mettait beaucoup de choses en place avant le samedi à la fruitière pour des dégustations. C'est plus compliqué parce qu'il y a plus de clients, donc il y a moins de place dans le magasin. Voilà, il y a aussi toute la pauvreté du quartier qui fait qu'on peut pas toujours déballer plein de choses comme ça. Ouais, mon rapport à la convivialité, il a vraiment changé depuis la campagne. Mais on vit pas pareil à la campagne. Campagne, t'as une belle table dehors, tu mets vite une grande nappe, et puis tout le monde a amené sa salade. C'est tellement beau. Enfin, voilà. Je pense que je. Après, je pense qu'il y a des gens qui savent faire ça en ville.
Oui, certainement. Je pense que nos intérieurs et nos extérieurs sont quand même beaucoup plus petits que la campagne.
Oui.
Mais oui, c'est différent.
Oui, oui, mais tu peux mettre aussi une belle nappe, faire des jolis plats. Oui, enfin, oui, on a des amis communes qui savent très très bien faire ça. Donc, je pense que c'est plus lié aussi à mon rythme de vie. Ouais. Ouais. Oui. Ça prend du temps aussi et de l'énergie de faire tout
c'est
ça.
Sûr.
Malgré ce rythme de vie, est-ce qu'il y a des rêves que tu souhaites réaliser prochainement ou dans quelques années? Est-ce qu'il y a des choses que tu veux transmettre et des apprentissages que la vie t'a enseigné, qui t'ont le plus marqué au fil des ans?
Oh là là!
Vaste...
Oui, vaste programme, hein. Ma philosophie de vie, ce serait sans doute de travailler moins ou de travailler différemment. J'ai envie de prendre plus de temps pour moi, mais j'ai aussi envie de transmettre beaucoup de choses, parce que je crois que je suis assez... je suis quelqu'un qui aime bien que les choses soient faites comme j'ai envie qu'elles soient faites. Donc, j'ai vraiment envie de transmettre vraiment cette idée que j'ai de la fruitière, de notre rôle dans cette société de mangeurs. Enfin, voilà, je crois que c'est quand même assez... on dit souvent que manger, c'est voter. J'y crois. Au-delà de la politique, c'est surtout se créer un monde qui soit plus viable pour la majeure partie d'entre nous, parce que il faut aussi inclure tous les gens qui sont pas tout à fait comme nous, qui réfléchissent pas comme nous, qui n'ont pas les moyens de penser comme nous. Ça fait aussi partie de... Tout à l'heure, tu m'as demandé pourquoi le centre-ville. Enfin, le challenge était aussi de se dire, on est dans un bâtiment du CPAS, on espère avoir des clients qui descendront les escaliers pour acheter un petit peu de fromage. Et ça marche un peu, mais ça marche. Voilà. Donc, ce serait ma philosophie de vie, ce serait vraiment ça, travailler un peu moins surtout et prendre plus de temps pour moi, pour les autres. Je délaisse les gens que j'aime et j'ai pas beaucoup de temps à consacrer à mes amis, ma famille, enfin, voilà. C'est pas la fin de quelque chose. Ça serait utiliser aussi ce temps. Le rapport à l'alimentation, la bouffe en général, parce que j'aime l'appeler comme ça, m'a amené à rencontrer des gens incroyables. Enfin, je pense à des univers nouveaux comme le café, le chocolat, ces bières de fermentation spontanée. Enfin, voilà, j'ai rencontré des gens à travers tout ça. J'ai rencontré des nouveaux univers. C'est un petit peu comme quand le vin nature est arrivé, on a découvert une nouvelle façon de faire du vin, des nouveaux goûts, des nouvelles sensations. Et c'était chouette. Et j'ai eu ça avec le café, j'ai eu ça avec le chocolat, grâce à des gens qui sont hyper experts dans leur domaine. Et je pense qu'il y a plein d'autres domaines où on peut encore rencontrer des choses, des gens, et que j'ai envie de découvrir ces choses-là. Ces bons moments, ces surprises, ces odeurs qui te prennent le nez, tu dis mais j'ai jamais senti ça, ou voilà. Donc ça, c'est vraiment ça serait vraiment partie de mes objectifs de vie. On va peut-être pas parler de philosophie, je suis pas très philosophe, je crois. Mais voilà, ce serait un peu les objectifs de cette partie de ma vie où j'aspire plus à quelque chose de calme, faire les choses un peu moins vite. Mais faire des choses. Et puis, un projet qui, normalement, je l'espère, aura lieu l'année prochaine, donc en 2025, puisque c'est l'année de mes 60 ans. Et depuis très longtemps, je souhaite découvrir un peu la culture du Japon. Et en particulier à travers l'accueil et la cuisine. Et donc, j'aimerais partir plusieurs mois au Japon. Mais en tout cas, l'idée, ça serait de vivre un peu le quotidien de la convivialité japonaise, si on peut en parler. Les gens me disent tous que c'est très froid. Moi, j'ai eu des rapports très chouettes avec des Japonais. Et je pense que passer à nouveau par le biais de la cuisine et des aliments, c'est une bonne façon de faire.
Voilà. Donc c'était très universel et que
oui, et qu'on n'a pas besoin de parler.
Non, on se comprend rien qu'avec des mimiques ou des.
Oui, c'est ça.
Oui. C'est beau, c'est une belle expérimentation, à mon avis.
Pour moi, ce sera vraiment un petit peu la cerise sur le gâteau de tout ce parcours du champ à Bruxelles, quoi. Tu vois. Ça sera un peu vécu pour moi comme une récompense et en même temps comme une nouvelle expérience. Merci, Fred.
De rien. Merci à toi merci de m'avoir partagé tes mots, tes expériences, tes apprentissages, et c'est un merveilleux cadeau que tu me fais là.
Mais écoute, c'était aussi un joli cadeau parce que, pour rien te cacher, j'ai quand même beaucoup réfléchi à ce que tu souhaitais. Et ça nous ramène, c'est un peu une introspection aussi qui fait que c'est toujours bien de s'arrêter un peu sur son parcours et de se dire « Ah, c'est pour ça que je suis peut-être comme ça, et donc je pourrais peut-être changer ça, si... » Voilà. Et donc, voilà, ça, j'avoue que ça m'aide beaucoup.
Écoute, un tout grand merci.
Merci à toi, Fred. On a une belle vie.